1 km à pied, ça use, 2 parts de marché, ça use, 3 plats de perche, ça use, 4 mares de pacha, ça use, 5 écoutes de goût, ça use, 6 coups d'écoute, ça use, 7 gouttes d'écoute, ça use, 8 cotons-tiges, ça use,
comme un avion sans herbe. J'ai chanté toute la nuit.
En Belgique francophone, la politique radiophonique est telle que les radios qu'on peut entendre sont celles qu'on n'écoute pas et que les radios qu'on écoute sont celles qu'on ne peut entendre.
Ah gogo ra 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 ta 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 ta.
Ah gogo ra 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 ta 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 ta.
Chapitre 57. Dites-moi où, dans quel pays est la belle écoute d'antan ?
Ce qui m'intéressait aussi dans la radio, c'est que ça pourrait être un média extraordinairement populaire que ça l'a été. Et que aujourd'hui, ça n'intéresse absolument personne, à part pour faire des robinets à musique et des radios d'information ou de soi-disant information continue, quoi.
C'est dû à quoi, ça, à ton avis?
Bon, je parlerai pas de la suprématie, de la toute-puissance de l'image, parce que ça commence à emmerder tout le monde comme formule, quoi. Mais il y a de ça, il y a le fait que. Qu'on n'écoute plus tellement, quoi, que l'oral, c'est, ça demande peut-être une attention soutenue qu'on ne peut plus donner. La radio, c'est devenu un bruit de fond pour des gens qui bougent, qui sont dans un café, qui sont en train de faire autre chose, mais pas écouter. Parce que être chez soi et écouter quelque chose sans le regarder, ça apparaît pas pensable, quoi. Ça apparaît comme un vestige du passé, quelque chose qui n'est plus en adéquation avec nos activités.
On ne donne pas aux gens l'opportunité d'écouter la radio pour ce qu'elle est, et non pas comme étant un simple accompagnement de quelque chose qui se passe au même moment d'eux. Alors que, bon, c'est depuis quelques années que la télé, en fait, la télé parfois est un bruit de fond, mais on regarde la télévision, on va au cinéma, on est pris par l'objet devant lequel on se trouve, la radio. Dans beaucoup de cas, on n'est pas pris parce qu'on n'avait rien pour le faire. Moi, ce que je trouve dramatique, notamment, c'est que quand on parle alors d'émissions, justement, plus de création, dans lequel il y a une construction, etc., on relègue ça en radio à des heures où nécessairement il n'y a personne pour l'écouter, alors qu'aux heures de grande écoute, on fait de la radio d'accompagnement, de la radio robinet, et qu'on ne donne jamais à ces moments-là aux gens la possibilité vraiment d'écouter de la radio qui a une valeur ajoutée importante. Et je pense que là, c'est une sorte de crime qui est dû aux gens qui gèrent les radios et qui eux-mêmes n'ont pas une très grande estime dans le média dont ils s'occupent, sinon d'en faire une sorte d'accompagnement de la vie des gens, quoi.
La radio, c'est très curieux, est dévaluée. Hein. On n'écoute plus la radio et pourtant, comment se fait-il que les publicitaires mettent tant d'argent, ils sont si contents et ont augmenté leur chiffre d'affaires en un an de 21%. C'est un paradoxe.
Une bonne radio, c'est une radio qui passe qui endort son public, quoi, et qui ne pose pas des questions.
Oui, une écoute distraite, peut-être. C'est contre quoi je m'oppose aussi. Moi, j'ai toujours prôné cette écoute en fait, qui est une écoute, comment dire, presque proche du religieux, une écoute méditative, une écoute songeresse, une écoute d'un certain type de prière, d'ailleurs, quand je pense qu'il y a des ordres religieux qui pratiquent ce qu'ils appellent une prière silencieuse ou des choses comme ça. C'est pas pour rien, ça nous est... Oui, on retrouve ça dans le zen maintenant, dans des pratiques venues d'Orient, des choses comme ça. Mais cette écoute de l'intime, du monde, qui est en fait l'écoute portée depuis des temps immémoriaux et ancestraux, qui sont l'écoute de la lecture et du conte qu'on pratiquait encore dans les campagnes il n'y a pas si longtemps et qui sont repris par d'autres formes maintenant, mais qui est une... où ce type d'écoute ne peut pas fonctionner autrement. Par exemple, la pensée ou la philosophie, eh bien, se fait par la parole, par la lecture, mais surtout par l'enseignement, par la parole. La radio est proche de ce type d'écoute-là, qui est l'ordre de la pensée en travail. Je ne parle pas de la psychanalyse, c'est encore plus proche. Donc, il y a deux conditions pour la belle écoute et la beauté dans la radio. Je trouve que c'est d'un côté, c'est le temps, c'est la durée. Et d'autre part, c'est la profondeur. C'est-à-dire que c'est un art de l'invisible et de la profondeur.
9 marches de porc, ça use, 10 murs de pluche, ça use, 11 tympans et autant de pain, ça use, 12 heures d'écoute, ça use.
Tu as fait un travail où tu as approché de manière assez sociologique le phénomène de l'écoute radiophonique, sociologique et historique. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu arrives à la conclusion que l'écoute radiophonique aujourd'hui peut être définie non pas comme une activité, mais comme une inactivité, ou une activité sans beaucoup de signification ni d'intention, et aussi une activité cumulative avec d'autres, ou une inactivité cumulative parce qu'elle se passe lors de d'autres activités?
Pour ça, il faut peut-être d'abord replacer le contexte. Et dans mon travail, le terme d'activité lui-même est un terme employé par, ou en tout cas défini par, une sociologue qui a été une de mes enseignantes à Namur, qui est Anne Wallmack, et qui, elle, a défini un concept d'activité qui est un comportement humain qui est défini dans un double sens, c'est-à-dire défini temporellement, il y a un début, il y a une fin, puis défini aussi dans le sens, on lui donne un sens consciemment. Donc, par exemple, je conduis ma voiture, eh bien, je sais quand ça commence, je sais quand ça termine, et je sais aussi que quand je conduis ma voiture, je conduis ma voiture. Quand je regarde la télévision, je sais quand je commence, je sais quand je termine, je sais que quand je regarde la télévision, je regarde la télévision. Par contre, il y a des choses, des comportements qui ne sont pas du tout définis comme des activités. Penser, par exemple. Est-ce que je sais quand je commence de penser, quand je termine de penser, et quand je pense consciemment? On pourrait dire qu'on pense tout le temps, donc c'est pas vraiment une activité. Donc il y a une série de choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce concept? Eh bien, ça fait partie de l'appareil de la sociologie du temps, qui est un courant sociologique qui est issu de tout ce qui est étude budgétant, hein, notamment Claude Javaux, qui avait écrit dans les années 60 un bouquin qui s'appelait « Les 24 heures du Belge », et qui était censé un peu donner des indications sur ce que les gens occupent, comment ils occupent leur journée et à quel moment, et qui sont d'ailleurs maintenant toujours suivies, toujours faites, plus par les universitaires, mais par des instituts de sondage, qui fournissent ça ensuite à des organes de médias pour organiser, notamment la radio, pour organiser au mieux la distribution des spots publicitaires sur la journée, quoi. Et donc, justement, dans ces études de budgétant, la radio, l'écoute de la radio, était systématiquement prise comme exemple d'activité cumulative. C'est-à-dire que la radio, c'est quelque chose qu'on fait en faisant autre chose. Mais j'en suis arrivé à penser qu'il y avait, il y avait un modèle, pour l'instant, de radio commerciale dont le modèle principal d'écoute, c'est la négation de l'activité d'écoute. Et ça se justifie tout à fait par leur mode de fonctionnement. Et c'est, je pense, une logique qui est très dangereuse pour le paysage radiophonique.
Il faut quand même qu'à un moment donné, on écoute la publicité, au moins.
Non. Justement, c'est basé là-dessus. Donc, il faut aussi le remettre dans un contexte global, qui est un circuit où le titulaire du programme vend ses auditeurs à un annonceur par le biais des méthodes de sondage. C'est une méthode d'appel téléphonique. Donc on appelle des gens sur base d'un échantillon et on les appelle au téléphone et on leur demande « Bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que vous avez écouté hier à la radio ?» Ou « Est-ce que vous avez écouté la radio et laquelle ?» Et alors les gens se rappellent de ce qu'ils ont écouté la veille et ils le disent. Alors c'est... je dirais que les programmes de radio sont optimisés pour avoir le meilleur rendement dans ces méthodes de sondage. Prenons un exemple. Enfin, il y a deux exemples qui sont vraiment très marqués. C'est les exemples de Énergie et de Radio Contact, qui sont d'ailleurs assez identiques, qui sont une programmation tout à fait lisse, homogène, sur toute la journée et même toute la nuit, avec un contenu qui n'est vraiment pas très connoté, qui est le plus large possible, pour ne moins déranger possible l'oreille. Mais il y a quand même une identification très forte de la chaîne via des jingles tonitruants, mais aussi via tout un habillage autour, c'est-à-dire des affiches, des autocollants. Bon, si vous regardez par exemple sur tous les feux rouges de Bruxelles et de Belgique d'ailleurs, il y a des petits autocollants Radio Contact. Et donc, il y a vraiment tout un jeu sur l'image de Radio Contact ou l'image de Énergie. Par contre, le contenu des programmes est tout à fait désinvesti, mais il faut qu'on sache quand même, qu'on reconnaisse quand même que c'est Radio Contact via des jingles. De telle manière à ce que quand on demande à une personne ce qu'elle a écouté la veille, ben, on ait le plus de chances possible que si elle a écouté Radio Contact, elle dise que c'est Radio Contact qu'elle a écouté. Et je dirais même plus, c'est que même si elle n'a pas écouté Radio Contact et que c'est une autre radio, qu'elle croit quand même que c'est Radio Contact qu'elle a écouté. Donc ça, c'est tout à fait typique et c'est même un cas d'école. Ce qui fait que les gens disent spontanément que c'est cette radio-là qu'ils ont écouté et qu'ils la reconnaissent. Et alors, donc y a l'autre partie, c'est le fait que le contenu est le plus lisse possible. Pourquoi ? Mais c'est pour que l'oreille ne soit pas trop attentive et en fait que l'oreille supporte les pauses publicitaires. Donc il y a une programmation qui est faite de cassures. Donc on casse chaque fois un style. Donc on passe par exemple un truc variété française, et puis un truc un peu europop comme ça, et puis un autre truc oldies. Et donc c'est chaque fois des choses différentes. Mais ça revient assez régulièrement pour que les gens, d'abord, n'aient pas envie de changer de chaîne parce que ça les dérange trop, c'est trop éloigné de ce qu'ils aiment. Et en même temps, ils restent parce qu'ils ont l'espoir que dans les 2-3 morceaux qui suivent, ils vont avoir quelque chose qui leur plaît. Et donc ça vaut aussi pour la pub, quoi, hein. Ils savent que la pub va jamais durer très longtemps et donc ils sont prêts à attendre un peu. Et donc on fait une grille pour que ça dérange le moins possible les gens et qu'ils restent le plus longtemps possible branchés. En même temps, on fait une écoute qui est bruit de fond, c'est-à-dire que les gens peuvent laisser la radio. Le tenancier de café va pouvoir laisser la radio en permanence, parfois même les supermarchés. Et alors dans les bureaux éventuellement.
Sur les chantiers.
Tout ça peut rester comme ça en permanence, une espèce de bruit de fond, ce qui fait que ça devient vraiment un environnement sonore et que ça fait partie de la vie des gens, quoi.
Et c'est ça que tu appelles le programme de flux.
Alors ça, c'est tout à fait typique du programme de flux, bien que même sur des radios comme Radio Contact, ce n'est pas un programme qui est entièrement de flux. Moi, je peux peut-être expliquer, hein. Donc ça, c'est un appareil conceptuel, enfin c'est un bien grand mot, mais c'est une distinction qui a été définie, en tout cas j'ai reprise d'un article d'une chercheuse italienne qui avait étudié le paysage radiophonique italien, qui s'appelle Barbara Fenati, qui avait défini comme ça les radios de flux d'un côté et les radios de programme de l'autre. Ce qui distingue les deux, c'est que la radio de flux, elle est basée sur un modèle qui est le modèle horaire, et chaque heure se répète de manière tout à fait identique au niveau de sa structure, avec une programmation donc, qui est on peut pas indifférenciée en fonction du moment de la journée. Par contre, on peut avoir des différences au sein même d'une même heure de programme. Donc, par exemple, Radio Contact, on a un jingle top horaire à l'heure, et puis on a un morceau, et puis on a un écran de publicité nationale, et puis on a deux morceaux, puis un écran de publicité régionale, et puis on a deux morceaux, et puis on a le journal, et puis on a de nouveau un morceau plus un écran de publicité nationale, et puis ça recommence une demi-heure, plus ou moins la même chose. Donc tout ça est très bien réglé, et ça répond aussi au mode de fonctionnement par ordinateur, donc entièrement commandé par des ordinateurs, pour pouvoir faire des économies de personnel, etc. Par contre, la radio de programme, elle, est basée sur une grille. Donc c'est un peu plus le modèle de la télévision, finalement, où on est censé plus ou moins choisir son programme, bien que ça ait une grosse différence avec la télévision, c'est que chaque jour, c'est la même grille, quoi. Donc chaque jour, à des heures différentes, on retrouve un programme différent qui souvent est fait pour toucher un maximum de public en fonction de l'heure où ils écoutent la radio. Donc par exemple, Bell RTL, hein, qui est une radio de programme tout à fait typique, où on a des émissions pour les ménagères en journée, puis le soir c'est pour les jeunes, quoi.
13 parts de marché, ça use, ça use. 14 morts de poche, ça use, ça use. 15 portugaises ensablées, ça use, ça use. 16 flux de flux, ça use, ça use.
Et quand vous écoutez de la radio, est-ce une écoute très attentive ou une écoute plus ou moins passive ?
Très attentive. Donc, vraiment, j'aime le média, j'aime le média radio et... je m'y plonge, donc par exemple, j'adore cuisiner en écoutant la radio, et la radio emplit tout l'univers intellectuel, si on veut. La cuisine étant plus automatique, je veux dire, sont j'ai beaucoup de plaisir à faire ça comme ça. Ouais. J'ai aussi beaucoup de plaisir à me laisser attraper, c'est plus rare, mais à me laisser attraper par l'écoute d'une dramatique ou d'une voix qui tout à coup me distrait du rapport visuel aux choses, etc. Donc j'aime bien partir dans le son comme ça. Oui. Ça j'aime beaucoup.
Et moi, je suis un auditeur de France Culture, et de pas tout de France Culture, mais je choisis parce que je reçois les programmes très détaillés. Et donc, je choisis et j'enregistre pour avoir la maîtrise de l'écoute et pas être interrompu par le téléphone et tout ça. Et donc, de l'atelier de création radiophonique qui passe tous les dimanches soirs à 22h30 jusqu'à minuit. Et parfois, il me vient de l'écouter en direct. Et je suis ici donc dans ce salon avec une stéréophonie. Et je me mets et je m'assieds au centre de l'espace. Et le travail de l'écriture radiophonique, très poussé, comme des moyens importants sont donnés à ce type d'émission en France Culture, constitue véritable sculpture autour de moi, sculpture qui traverse. Et le simple usage de la stéréo me donne et me procure des images que il est évident que jamais la télévision qui est déposée à côté de la radio ne peut offrir. Et une telle puissance émotionnelle. Il m'arrive de sortir d'une émission en pleurs. Je ne pleure jamais devant la télévision.
des stations muettes ou sur les ondes courtes, parfois on prend un pied extatique, ou explorer dans toutes les villes que je visite, sur les radios, chez des amis, dans les hôtels, tu vas chercher sur les ondes courtes, tu finis toujours par tomber sur quelque chose de bizarroïde dont tu ne sais pas si c'est une émission qui est déformée ou si c'est quelque chose qui est comme ça mais dont le langage t'échappe, mais la simple présence d'un grésillement, d'une présence, du fait que quelque part il y a quelque chose qui est enclenché et qui veut diffuser des informations d'une manière ou d'une autre. Quitte à écouter des objets sonores, je préfère écouter ça que l'AFM en général. L'AFM ressemble moins à ce que... L'AFM, ça ressemble moins à de la radio, à quelques exceptions près. Je veux dire, l'AFM, en général, quand je zappe sur l'AFM, ça ressemble à une série de spots publicitaires, et peu importe que ce soit des spots publicitaires pour des disques, ça reste avant tout du spot publicitaire. Je veux dire, on passe plus forcément un morceau de musique pour le faire apprécier, mais pour le faire vendre, etc. C'est une autre démarche. J'ai rien contre, hein. Il faut accepter le monde tel qu'il est, mais c'est pas ce qui m'intéresse.
Parfois, je me dis, en entendant des créations, que finalement, est-ce qu'on les entend pas mieux dans un contexte non radiophonique ? C'est-à-dire une audition, quoi, quelque part, dans le cadre d'un festival radio, ou hein, bon, des choses comme ça. Parce que est-ce qu'on a vraiment l'attention nécessaire quand on branche, on met de poste de radio ? Et est-ce qu'on a vraiment la qualité de son quand on branche, on met de poste de radio, quand elle n'est pas très bonne ? Ça, c'est une question que je me suis souvent posée. Même si je me souviens, quand j'étais plus jeune, mais bon, c'est vrai que j'écoutais encore souvent Radio Panique, mais quand j'étais plus jeune, j'écoutais tout le temps Radio Panique. De temps en temps, comme ça, j'entendais des créations... qui m'étonnait et tout ça, donc je dressais l'oreille et j'arrêtais ce que je faisais, enfin tout à fait cessante, et je me mettais à écouter. Donc d'un autre côté, je me dis, certaines créations peuvent vraiment capter l'attention et créer cette écoute.
Quand on voit que lorsque il y a quelques séances d'audition qui se font au Nova, ben, la salle est remplie. Bon, malgré tout, il y a un petit public, là, c'est moins l'amorce de quelque chose, de gens qui sont intéressés par des programmes de radio. Mais est-ce que ces gens sont capables d'entendre les radios qui diffusent ces programmes autrement que dans une salle de cinéma, hein ?
Moi, je trouve qu'il y a un avenir, et il suffit de l'organiser, hein, très important pour cette appropriation de l'écoute. D'ailleurs, quand qui aurait parié ? Quand un des premiers gestes de l'atelier radio, c'était de donner à entendre en public qu'il y ait tant de monde et une telle qualité d'écoute, ça, on pourrait jamais, on aurait, c'était marié l'eau et le feu, cette histoire. Et pourtant, je crois que ce type d'écoute en public a un avenir.
Et que personne ne l'oublie.
En quoi le sonore nous fait-il pénétrer dans une zone de la réalité qui n'est pas captable ou perceptible par d'autres voies ?
Mais tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité du rêve, donc de l'invisible, de la nuit, dont on ne voit rien, sauf qu'on se crée des images, et Dieu sait si ces images sont porteuses, elles sont induites par le son et par la mise en scène du son. Entre le rêve et une écoute de ce qu'on entend et des images qu'on se fait, on est très proche. Hein. On est très proche de la part nocturne, c'est-à-dire de ce sommeil qui nous répare et pas qui nous fatigue. Et pas de ces lumières qui nous fatiguent. On est très proche de ces profondeurs qui sont aussi proches de la mort. Enfin, c'est aussi une expérience de la mort. Et pas de cette agitation. Et pas de cette agitation qui nous excède.